Le speed dating de l'immobilier avec Arkéa Banque Entreprise et Institutionnelle. Le 10 septembre 2024 sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien, rebonjour les amis, tout au retour au Speed Dating édition 2024, le Speed Dating d'Arkéa Banque à la Maison de la Chimie dans le 7e arrondissement. On est très heureux puisque chaque année, c'est ce que je disais tout à l'heure, hors antenne, il fait toujours très très beau. Voilà, nous retrouvons celui par lequel nous faisons régulièrement le tour de France de l'immobilier. La preuve, c'est qu'il connaît bien l'immobilier, mais dans tous les territoires, puisqu'il passe sa vie sur les routes de France. Il est le directeur immobilier d'Arkéa Banque, c'est notre ami Aurélien Deleu. Comment ça va, Aurélien ?
Bonjour Sylvain, tout se passe bien, mieux serait indécent dans cette rentrée.
Mieux ce serait de la gourmandise.
Exactement.
En plus vous avez fait un carton dans votre émission là, au MEDEF avec Catherine Jiquel, vous étiez super. Très belle photo, on voit que vous êtes revenu de vacances, vous avez beaucoup pédalé ce week-end pendant l'été, bon c'était super, vous êtes en pleine forme. Comment se porte le marché aujourd'hui? Et j'aimerais que vous me parliez de plusieurs choses dans cette conversation, si vous voulez bien on va lire. L'historique incroyable de ce speed dating, parce qu'aujourd'hui toute la profession est là, le contexte aussi dans lequel ça s'inscrit, et encore une fois je reviens aussi sur le côté qu'on évoque souvent vous et moi sur le Tour de France, c'est aussi que vous êtes toujours présent dans ces moments bons, mais aussi dans les moments plus difficiles.
Ouais, tout à fait, on y reviendra sur les moments un peu plus difficiles. Peut-être vous redire quand même le contexte, c'est le speed dating de l'immobilier d'Arkéa, fait sa 11e édition. Sa 12e année, puisque l'année Covid, on avait dû faire une petite impasse.
11 éditions.
Exactement.
Incroyable.
Donc, on est très fiers d'être présent. La première édition, et je fais un petit clin d'œil à l'époque, puisque j'ai eu la chance d'être là sur le lancement, et il y avait notamment Jean-Michel Royot qui était à l'initiative, se passait au Collège des Bernardins. On était plutôt une centaine de dirigeants, et le thème, on a toujours essayé de vouloir mettre en place un thème sur l'actualité immobilière de l'époque, et vous allez voir, ça va vous faire sourire Sylvain, c'était le logement, promoteur, bailleurs sociaux, mariage d'amour ou de raison. Et en fait, c'était le début des ventes en bloc, tout début des ventes en bloc. Les promoteurs construisent, ça il faut le savoir quand même, une grande partie des logements sociaux. Les bailleurs
plus
sociaux leur rachètent. Ouais, et à l'époque, ça représentait, je pense, à peu près 10%. Et pourquoi on avait fait cet événement-là? C'était une thématique, c'était quelque chose qui était en train de se développer. Et l'idée, ça a toujours été, parce qu'au-delà d'être un banquier, on finance les opérations de promotion, mais également les bailleurs sociaux.
Bien
on
sûr.
Voulait être animer cet écosystème et apporter une plus-value à nos clients. Et la plus-value, c'était quoi? C'était de croiser nos réseaux pour que les dirigeants puissent se connaître un peu mieux et développer leur business. Et ça a toujours été l'état d'esprit du speed dating. Donc première année, ça a été ça. Ensuite, on a décliné différentes thématiques en fonction des actualités, l'accession sociale à la propriété, les nouveaux montages, le logement intermédiaire. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu également le sujet des ouvrages sportifs. On n'a pas été que sur le logement. Et cette année, la thématique d'actualité, c'est l'emploi et le logement, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, le marché est en pleine crise et tout est lié. Et aujourd'hui, on a un vrai problème pour les entrepreneurs de trouver un logement pour leurs salariés, qui bloque quand même le marché de l'emploi aujourd'hui.
Alors les chiffres sont têtus, puisque vous avez mille fois raison, malheureusement, mille fois raison, puisque c'est pratiquement plus de 25%, quasiment 25% des emplois à durée indéterminée qui ne seront pas signés, faute de logement. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, un quart des personnes refusent les offres d'emploi. Mais il y a pire, c'est les projets de vie, vous savez. 26% des ménages interrogés envisagent de ne pas faire d'enfants, faute de logement. On a 17% des étudiants qui n'ont pas trouvé de logement pour leurs études et qui donc vont renoncer. Ils étaient 12% l'an dernier. Donc on voit bien que le fléau s'accroît. Ça s'arrange pas. Alors justement, j'ai envie de vous poser la question. Vous, de votre côté, qui vous êtes un peu le baromètre des opérateurs aujourd'hui financiers, et pour cause, vous êtes au cœur des projets, est-ce que ça va s'améliorer ou pas? C'est quoi votre pronostic?
Je suis quelqu'un de plutôt optimiste, donc oui, je pense que ça va s'améliorer, parce que,
est-ce que vous le
ça
sentez?
Ne peut que s'améliorer. Aujourd'hui, on le ressent.
On peut descendre plus bas qu'aujourd'hui ou pas?
Je pense que oui, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas. On a fait quoi l'année passée? 90 000 logements. La FPI a sorti ses chiffres la semaine passée.
Ouais.
On est sur des chiffres, quand même, d'autorisation et de vente de logements qui sont inférieurs à une année Covid, où vous avez eu plus de 4 mois d'arrêt de chantier. Donc la situation, pour le coup, est dramatique. On a coupé aujourd'hui les dispositifs investisseurs de type Pinel, qui vont se terminer en fin d'année. Vous avez aujourd'hui une forte hausse des taux qui a désolvabilisé les primo-accédants. Alors, sur ce volet-là, ça a tendance à s'améliorer.
Et on l'a vu, là, pas plus tard que là, en septembre, le BCE baisse des taux.
Oui.
On retrouve du 3,330 sur 20 ans.
Voilà,
c'est vachement bien.
Donc ça fait du bien. Donc ça, c'est une bulle d'oxygène
là, c'est
pour les acquéreurs.
C'est 300 points de base quasiment d'économie sur quasiment quelques mois, quoi.
Plutôt 200.
Oui, plutôt 200.
Si on regarde la baisse.
Oui.
Mais en tout cas, ça permet à nouveau de resolvabiliser.
Bah oui.
Le problème aujourd'hui, c'est que vous avez quand même très peu de produits sur le marché parce que les promoteurs, tant qu'ils n'ont pas ces réservations, ne lancent pas les nouveaux projets. Alors, heureusement.
Combien il leur faut de réservations pour un promoteur en moyenne?
Un promoteur, la règle, c'est à peu près 40% de pré-commercialisation.
Donc, quand il a fait son permis, qu'il veut lancer le chantier, il lance une pré-commercialisation.
Exactement.
S'il n'a pas 40% de réserve, eh ben, il n'en sera pas. Il ne sera même pas financé, finalement.
Voilà, il lui faut une garantie financière d'achèvement. Donc nous, le banquier, on met ce niveau seuil de... Alors, ça peut être 35, 40%, 45%, tout dépend des opérations. Tant qu'il n'a pas franchi cette barre-là, le banquier n'accompagne pas. Mais j'ai envie de dire, c'est plutôt une sécurité. Parce que imaginez qu'un banquier finance un opérateur sans pré-commercialisation et que le prix affiché dans le marché est trop élevé et que personne n'achète, vous vous retrouvez avec des logements qu'ils ont construits et qui n'ont pas de vendeur derrière. Donc c'est plutôt quelque chose qui est assez sain. Ce qu'il faut juste, c'est que le banquier ne rehausse pas ses conditions de pré-commercialisation. Donc nous, aujourd'hui, on tient le cap, on garde des conditions qui étaient les conditions d'avant-crise, mais en tout cas, c'est un élément qui est majeur. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que vous avez les bailleurs institutionnels, je pense notamment à Caisse des dépôts, Action Logement, et puis tous les bailleurs sociaux, qui prennent une partie de vente en bloc pour du logement social ou pour du logement intermédiaire, et qui permettent parfois d'accélérer un petit peu le lancement des nouvelles opérations.
Est-ce que, parce que vous avez une particularité, c'est que vous travaillez avec tous les gens du secteur, y compris le public, je veux dire les aménageurs,
oui,
etc. Côté public, les élus, qu'est-ce qu'ils vous disent? On l'a vu, c'est la cata au niveau du privé, c'est la cata au niveau des trucs, mais le public, les organes publics, etc. C'est quoi qu'est-ce que vous entendez?
Là, on est sur de la politique locale, donc ça va dépendre des élus. Vous avez des élus qui restent bâtisseurs, qui continuent à construire sur leur commune. Vous avez des élus, la vague écolo, la vague verte.
Mais est-ce que c'est eux qui sont en cause? Parce qu'on n'imagine pas, franchement, Aurélien, on n'imagine pas un maire écolo dire « je loge pas mes citoyens ». C'est pas possible.
Il le dit pas. Enfin, si, parce que vous avez certaines collectivités. J'en parlais tout à l'heure. J'ai pas le nom de la collectivité. Puis l'idée, c'est pas ça. Qu'il y a 12 000 habitants. Il prône la décroissance. Il veut être à 9 000 habitants demain. Comment on peut tenir ces positions-là? J'ai eu un échange hier soir avec.
Il y a un maire qui dit ça.
Ouais, j'ai eu un échange hier soir avec un promoteur qui renature. Vous avez une collectivité locale qui a du foncier de type friche qui pourrait être muté. Et là, on vient pas grignoter. On est compatibles.
Oui, oui.
Et qui renature. Donc, vous avez quand même un moment donné où des élus, quand vous avez une ville qui attire, qui est attractive, avec des personnes qui cherchent des logements, il faut quand même leur apporter une solution. Donc, vous pouvez densifier, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça veut dire respecter le PLU, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours appliqué. Après, je veux quand même mettre. L'idée, c'est pas dire c'est de la faute des élus, pas du tout. Il faut aussi avoir en tête le contexte économique des collectivités locales. Les collectivités locales aujourd'hui sont exsangues. Quand on fait des nouveaux logements.
Il n'y a plus un rond.
Oui, mais quand on fait des nouveaux
de
logements.
Fiscalité.
Mais ils n'ont plus la fiscalité avant. Il y avait l'outil de la fiscalité. Vous avez les différentes taxes.
Non, mais même les droits de mutation, Aurélien, parce que c'est le cercle vicieux. Alors le droit de mutation.
C'est le département.
Oui, mais enfin, ça a une incidence sur les communes.
Bien sûr.
Le département, c'est la collectivité locale. C'est la communauté d'agglo. C'est l'intercommunalité. Et donc, du coup, le département. Mais c'est double peine. Parce qu'ils n'ont plus de leviers fiscaux. Plus de leviers fiscaux.
Donc en fait, on
peut
dans
les
une situation.
Du coup,
qui, voilà, c'est pour ça que j'atténue un petit peu mes propos, parce que quand vous faites des nouveaux logements, il faut pouvoir accueillir ces nouveaux habitants avec des équipements publics, c'est-à-dire des écoles, des crèches, du commerce.
Peut-être que la solution, ce soit que les promoteurs qui finalement vont construire les services publics. Enfin,
ce qui se fait régulièrement, c'est dans une zone d'aménagement,
oui,
vous avez une
péréquation,
c'est-à-dire que le logement, notamment privé, permet de financer quelques équipements publics. Voilà. Donc on est dans une situation.
Le logement privé permet également de financer la partie sociale qu'il y a dans l'immeuble.
Exactement, mais ce qui n'est pas non plus très sain, parce que vous avez eu, des distorsions de marché et puis des prix de logement, une inflation très forte sur le logement libre à l'accession pour pouvoir financer cette péréquation pour le logement social.
Il y a presque une injustice entre celui qui va acheter à un prix très élevé, quasiment sur le même palier, pour que la personne qui est locataire en face soit bénéficiaire d'un bail à caractère social.
Exactement.
C'est pas très juste. Mais bon.
Il peut y avoir de la péréquation. Après, il faut évidemment qu'elle soit encadrée. Donc je reviens sur le sujet de départ, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, et je pense que Julien Carmona vous en parlera, puisque on finance également, nous, du particulier qui achète un logement dans nos fédérations de crédit mutuel. Il y a un petit frémissement aujourd'hui là-dessus. Donc c'est quand même une lueur d'espoir qui permet de dire que le Français, de toute façon, a besoin d'acheter son logement, en tout cas une envie d'être propriétaire du logement. Donc cette partie-là revient. Ce qu'il faut avoir en tête, et c'est de voir quelle va être la suite, puisque le dispositif Pinel va s'arrêter. Et je ne sais pas si vous avez vu, on ne fait pas forcément le lien, mais le dispositif Pinel s'arrête. Certainement, il n'avait pas que des avantages. Il permettait quand même de loger sur une durée quasiment de 10 ans avec des loyers modérés.
Peut-être pas que des avantages. En tout cas, les résultats du rapport de la Cour des comptes indiquent très nettement que... Vous l'avez lu, hein, je pense.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Oui, et puis j'ai même allé plus loin, Sylvain. Aujourd'hui, vous avez vu
vachement loin,
Bercy, aujourd'hui le déficit de la France. Vous avez, je ne sais plus combien, 1,4 milliard ou 1,6 milliard de baisse de recettes fiscales de TVA.
Ouais.
Elle vient en partie de où, cette baisse de TVA? Le logement, le Pinel, vous aviez une TVA de
20%. Mais ça a été chiffré. L'aide du Pinel a été chiffrée. Et la compensation, c'est-à-dire la récupération de recettes fiscales liées au Pinel, a été chiffrée. On est sur des taux, on est quasiment du 1 pour 2. On donne 1, ça rapporte 2 à l'État. Bon, on voit bien que le dogmatisme public des 4 gouvernements, maintenant du 5e gouvernement, on va espérer qu'il y ait un peu plus de lumière, a massacré, mis à genoux, mais j'aimerais bien l'entendre un jour. J'aimerais entendre un jour, oui, l'exécutif, Emmanuel Macron, a mis à genoux toute une industrie. Il aurait pu faire autrement. Simple, 3 choses. Réduire la TVA comme un produit de première nécessité, ça serait une bonne idée. La deuxième chose, maintenir le dispositif Pinel. Et on le voit que c'est quand même une ironie, hein. Le rapport de la Cour des comptes qui tombe et qui dit que finalement la meilleure utilité de cette niche fiscale à porter ses fruits, c'est la loi Pinel, quand même. Et enfin, de ne pas toucher au PTZ, voire même de l'élargir ou de l'augmenter. Voilà.
Exactement.
Ce sont des béabas. Ça a été chiffré, hein. Tout ça coûte environ 42 milliards d'euros d'aide quand ça a été chiffré à l'époque, hein, en volume, et pour une recette globale envisagée dans l'environ 96 milliards d'euros. Donc on voit bien que le rapport était largement bénéficiaire, mais on s'est heurté. Est-ce que justement, et ça sera ma dernière question, quand vous prenez le pouls de la température de tous vos partenaires qui sont ici présents, qui sont très nombreux, vous n'éludez aucune question. Voilà. Vous répondez pied à pied à toutes les questions, même parfois quand elles sont dérangeantes. Et donc voilà, ça prouve que voilà, ça fait plaisir de bosser avec des pros. Merci beaucoup, Aurélien Deleu. Je rappelle que vous êtes le directeur immobilier d'Arkéa Banque. On se retrouve bientôt, vous et moi, puisqu'on va tourner une partie de notre Tour de France bientôt. On sera à Bordeaux.
Le 15 octobre.
On l'a déjà annoncé d'ailleurs au public. Normalement, les amis, on retrouvera Aurélien Deleu sur les routes de France, un peu comme un saltimbanque de la banque. J'aime beaucoup l'idée. Hein. Le saltimbanque de la banque pour qu'on aille faire le tour des promoteurs dans les territoires avec beaucoup de plaisir. Merci Aurélien.
Merci Sylvain.
Le speed dating de l'immobilier avec Arkéa Banque Entreprises et Institutionnelles. Le 10 septembre 2024 sur Radio Immo et Radio Territoria. We'll be right back.